Parfois, on a cette manière de voir que le judaïsme, la première alliance, est centrée surtout sur la loi et que la deuxième alliance, le Nouveau Testament, est centrée sur l'amour. Comme si les Juifs n'étaient pas aussi interpellés par la parole qui vient d'être citée, qui est dans le Deutéronome, « Tu aimeras ton prochain comme toi-même », et Jésus, quand il cite le Deutéronome, évidemment, le fait d'aimer n'est pas l'apanage des chrétiens, de ceux qui sont disciples de Jésus. Mais ce qui est intéressant, c'est dans la manière que Jésus a de citer la Torah, le Deutéronome, au chapitre 6, il y a une petite modification. Alors que, si vous voulez, c'est comme si à un prêtre, on lui demandait de réciter Notre Père. C'est quelque chose que tout rabbin sait absolument par cœur. Et du coup, on se dit, mais c'est pas possible, il s'est quand même pas trompé. On va pas demander à un prêtre de se tromper sur Notre Père. Voilà, il perd la tête, mais ce n'est pas le cas. Qu'est-ce qui change entre sa citation que Jésus fait de Deutéronome 6 et Deutéronome 6? Il y a quelque chose qui change. C'est que dans la loi, dans la Torah, il est dit « Tu aimeras le Seigneur de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. » Et Jésus, lui, quand il cite, il dit « Tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, de tout ton âme, de tout ton cœur, de toute ton âme et de tout ton esprit. » Dans Marc et Luc, donc les autres synoptiques, là on est dans Matthieu, il rajoute « force » et il rajoute ensuite « esprit ». Il y a comme une insistance sur le fait d'aimer avec son intelligence. Et c'est quelque chose qu'on n'est peut-être pas habitué à entendre ou sur lequel on n'a pas forcément médité. Comment, avec son intelligence, on peut aimer Dieu? D'abord, il faut resituer le contexte. Nous sommes dans l'entrée vers la Passion, nous sommes à la fin de l'année liturgique, nous approchons de Christ, ensuite de Christ roi un peu plus tard, mais ensuite de la Toussaint, etc. On sent qu'il y a une sorte de tension, et Jésus s'adresse à un docteur de la loi, à quelqu'un qui, entre guillemets, passe des examens pour être docteur et qui connaît. Et donc, ce n'est pas complètement anodin que d'insister sur la question de l'intelligence. Maintenant, on peut se poser la question, pourquoi cette insistance? Parce que peut-être notre intelligence qui fait que nous sommes à l'image et à la ressemblance de Dieu. C'est vraiment ça. C'est notre capacité d'aimer, notre capacité de connaître, notre capacité de notre intelligence, notre volonté, qui fait qu'on est à l'image et à la ressemblance de Dieu. Il y a quelque chose d'infini dans l'intelligence. Dans l'intelligence, parce qu'on peut potentiellement, on peut tout connaître. Par exemple, potentiellement, on ne peut pas tout goûter. Vous ne pouvez pas goûter du plomb fondu, par exemple. Mais votre intelligence, il n'y a rien qui s'oppose. Qu'est-ce qui blesse l'intelligence? C'est l'ignorance et c'est l'erreur. Mais potentiellement, l'intelligence, elle peut tout connaître. Alors, il y en a qui sont plus une intelligence littéraire, manuelle, etc., relationnelle. Il y a quelque chose d'infini. Et donc, cet infini qui fait aussi qu'on est image de Dieu, il a besoin d'être comme converti, il a besoin d'être tourné vers le Seigneur. Parce que, évidemment, on le sait bien, notre intelligence, si elle est capable de sonder les profondeurs de la parole de Dieu, elle est capable aussi de s'enfermer en elle-même. Et c'est toutes les dictatures, toutes les personnes qui sont adeptes comme ça de pensée unique. Parce que ça part de l'intelligence. Je me souviens un cas, par exemple, d'un monsieur. Peut-être vous connaissez le témoignage de Gaëti Gertamer, ça vous dit quelque chose, une femme qui a été prise pendant la guerre et qui, pianiste de profession, et qui a été torturée par un médecin autrichien, et qui fait qu'il lui a torturé les nerfs, etc., bon, qui fait qu'elle n'a plus pu jouer le restant de sa vie. Et après des années, elle a retrouvé ce médecin qui était un bon professionnel, qui était bon père de famille et est devenu bon grand-père entre-temps, un homme bien, croyant, qui lui a dit, il lui a demandé pardon à la fin de leur entretien, mais il a dit, j'ai mis des années à penser que le nazisme n'était pas la solution. un homme érudit, un médecin. Parce que c'est l'idéologie vrille l'intelligence. Et corriger une intelligence, c'est extrêmement difficile. Il y a un pli que l'intelligence prend, c'est pour ça que c'est très important l'éducation. Et donc, il y a quelque chose aussi à évangéliser dans notre intelligence, nous qui ne sommes pas pris, je l'espère, par des idéologies, mais on ne sait jamais, la peur aidant, on peut parfois se laisser attirer. Mais le fait de corriger quelque chose, justement, de rentrer dans une humilité. Quand on étudie la philosophie et la manière de connaître, la philosophie de la connaissance, on voit que l'intelligence, c'est comme ça que je l'ai appris à l'école d'Aristote et de Thomas d'Aquin, mes grands-pères intellectuels, pour ainsi dire, l'intelligence, elle reçoit du réel. Et par les cinq sens, elle reçoit la réalité. On voit le scientifique, c'est d'abord un contemplatif. C'est quelqu'un qui scrute la nature, et en scrutant la nature avec son intelligence, il découvre les lois, mais c'est pas lui qui met les lois dans la nature, il les découvre. C'est pour ça que foi et science, c'est tout à fait compatible. Hein, et l'intelligence, ça veut dire « intus legere » en latin, « lire à l'intérieur ». Lire à l'intérieur. Hein, lire à l'intérieur du réel quelque chose qui est caché dans le réel et que l'intelligence met à la lumière. Mais, et donc, forcément, c'est une puissance très grande. C'est un don très grand quand on a une bonne intelligence, quand quelque chose qui est bien ajusté. Mais il y a comme une humilité à voir. L'idéologie, c'est l'intelligence qui se replie sur elle-même. Elle ne reçoit plus du réel son objet, elle se prend elle-même comme source de connaissance. Oui, ça c'est vraiment l'idéologie, c'est ce qu'on appelle l'orgueil aussi. Donc il y a quelque chose dans notre intelligence qui t'est amené à... Et nous sommes tous touchés d'une manière ou d'une autre, parfois nous avons du mal à accueillir le réel. Le réel c'est ce qui résiste, c'est ce qu'on n'a pas choisi précisément, et dans lequel il faut rentrer. Et alors, il y a cette conversion de l'intelligence et aussi cet appel aussi de l'intelligence à collaborer à la connaissance de Dieu. C'est très fort dans le pontificat du pape Benoît XVI, ce lien entre foi et raison. Ça l'était déjà chez le pape Jean-Paul II, mais lui-même l'a explicité à plusieurs endroits. Et c'est intéressant parce que parfois on dit « Ah non, je ne suis pas croyant, je suis trop rationnel ». Non, c'est pas comme ça que ça marche. La foi demande la raison, et quelque chose, et quelque part, la raison est élevée par la foi, par la révélation, à la splendeur de Dieu. Oui, c'est notre foi élève l'intelligence à des réalités qui, cette fois-ci, ne sont pas connues par les cinq sens. Ah, le toucher, la vue, l'odorat, etc. C'est inaccessible. La Trinité, on ne peut pas la toucher. Je peux toucher l'hostie, mais même après la consécration, je ne peux pas toucher la substance, le corps du Christ. Alors je sais qu'à travers les espèces, c'est la foi qui donne accès à quelque chose que l'intelligence ne connaît pas par les cinq sens. Et d'où cette importance de faire dialoguer foi et raison, qui permet d'ouvrir la foi par l'intelligence à la transcendance. D'ouvrir l'intelligence. Et on peut dire que dans notre foi catholique, nous avons un corpus intellectuel remarquable, parce qu'il y a quelque chose d'important. C'est qu'on a intégré, et ça date du Moyen-Âge, l'époque médiévale, de la fondation de la Sorbonne, on a intégré la philosophie grecque à l'intérieur, disons comme un outil pour mieux comprendre la révélation. Et donc on a fait dialoguer, on a pris des choses qui nous viennent des païens, la philosophie grecque c'est des païens, mais des gens qui avaient une observation, entre autres Aristote, hein, qui était pris pour pouvoir éclairer les concepts qui donnaient, par exemple, substance, un concept un peu compliqué, mais vous le savez, dans la messe, c'est ce qu'on appelle la transsubstantiation. Le pain reste du pain, mais la substance du pain, mais ça c'est une définition philosophique. Et donc du coup, de même substance que le Père, on dit de même nature que le Père dans le credo, mais c'est faux, c'est pas pareil que substance. Mais vous voyez, ça c'est des questions philosophiques, c'est pas d'abord des questions religieuses. C'est pour ça que moi je constate que dans les contacts que j'ai, je trouve qu'il y a un déficit de formation. Un déficit de formation, peut-être pas pour tous, qui prennent soin, qui prennent du temps pour se former, justement connaître mieux, parce que le champ est ouvert. Pour l'intelligence qui est infinie, qu'est-ce qu'il lui faut sinon l'infini ? C'est-à-dire Dieu lui-même. Le champ est ouvert pour connaître. Et je trouve qu'il y a une sorte de gap entre... Je suis plutôt en contact avec des jeunes, etc., mais des jeunes déjà diplômés. Mais justement, ils sont montés en gamme, si j'ose dire, au plan intellectuel, au plan professionnel. Mais au plan spi, c'est bon, un petit peu plus que la première communion, mais pas guère plus. Oui, parce qu'on ne prend pas conscience que la foi, elle est dans l'intelligence. Et quand vous approcherez, si vous vous approchez pour communier, et que vous dites « Amen » quand on vous tend le corps du Christ, ça veut dire « c'est vrai ». Je crois que c'est vraiment le corps du Christ. Et le vrai, la vérité, est le bien de l'intelligence. Oui, donc je trouve que c'est vraiment c'est quelque chose qui... Aimer Dieu avec son intelligence. Aimer Dieu, c'est chercher à le comprendre, chercher à le connaître. Et ce rapport de foi et de raison, on dirait « mais c'est une question spécialiste », etc. Non. Malheureusement, l'actualité nous montre que non. Tout le fondamentalisme musulman vient du fait, et bien généralement dans l'islam entier, de cette coupure entre foi et raison. C'est ce qu'on appelle la fermeture de la porte de l'ishtihaj au Xe siècle, c'est-à-dire la fermeture de l'interprétation. On ne peut plus interpréter. C'est comme ça. Et on voit combien, alors que l'islam a été source de culture pendant quelques siècles, ça s'est arrêté net. Et la difficulté que connaît cette religion aujourd'hui, c'est précisément ce manque de dialogue entre foi et raison. Et vous vous rappelez, si vous avez l'occasion d'aller la revoir, cette conférence du pape Benoît XVI à Ratisbonne, qui avait fait couler beaucoup d'encre, etc., où il rappelle ça, où il rappelle cette importance pour toutes les religions de laisser l'intelligence respirer, qu'on peut poser des questions, on peut interpréter. Sans pour autant blasphémer ou profaner les textes sacrés. Oui, donc ça c'est quelque chose que nous, on a pris plus à partir de la philosophie, mais je trouve dans le judaïsme, par exemple, moi je suis beaucoup en train de me former à la connaissance plus grande du judaïsme par différents moyens, ben je trouve qu'il y a une vraie recherche intellectuelle, et puis c'est une manière de penser qui est différente de la nôtre, etc. Je trouve très intéressant, parce que justement ils essaient de mettre au service de leur foi l'intelligence. Parce que l'hébreu, vous savez qu'en hébreu, il n'y a que des consonnes. Il n'y a que des consonnes, comme en arabe aussi. Et du coup, en fonction des voyelles que vous mettez, malheureusement, je ne lis pas ni connais pas l'hébreu, ce serait le grand regret de ma vie, mais en fonction des voyelles que vous mettez, vous avez une interprétation et une autre. Et donc, il y a toute une richesse de l'interprétation de la parole de Dieu à travers, justement, le judaïsme, qui sont nos frères aînés dans la foi. Donc, je trouve c'est que nous puissions nous-mêmes nous dire, ben, il y a parfois notre intelligence qui peut faire obstacle à Dieu, oui, par l'orgueil, par le manque d'humilité, le manque d'accueil du réel, mais elle est aussi une grande chance pour notre sainteté. Elle est une grande chance pour notre progression intérieure. Elle est une grande chance pour notre communion avec le Seigneur. Parce que c'est précisément là où nous allons avoir un contact avec Dieu qui se révèle. Il y a des joies intellectuelles dans la foi qui sont des joies de comprendre quelque chose. C'est une bribe. Thomas d'Aquin, qui a passé, un grand théologien, qui a passé toute sa vie à écrire et il se baladait avec une bibliothèque entière. C'est un docteur commun. Il disait à la fin de sa vie, ce que j'ai écrit, ce n'est que paille. Parce qu'il a dû avoir une expérience mystique, je suppose, de ce qu'est Dieu. Et que péniblement, nous qui sommes enracinés aussi dans la chair, nous voulons aussi contempler avec notre intelligence, notre raison. Nous ne sommes pas comme les anges qui sont eux de purs esprits. Alors, peut-être on pourrait, je ne sais pas, mais... Essayer de réfléchir comment nous-mêmes nous pourrions mettre en pratique cette Amour par l'intelligence que nous avons reçue, amour de Dieu. Comment nous pourrions le mettre en pratique? Certainement par la formation, par le fait de scruter la parole de Dieu ou de se laisser scruter peut-être par la parole de Dieu. Le fait de rejoindre notre groupe, et on voit bien même sur Internet avec les MOOC, les Bernardins, des frères qui suivent comme ça, des MOOC sur l'Eucharistie, MOOC sur le sacrement, et énormément de choses sont proposées et accessibles aujourd'hui, c'est vraiment extraordinaire. Donc ne prétextons pas, si on prétexte, c'est qu'on ne met pas la priorité. On ne prend pas soin de son âme. Et son âme qui a une capacité aussi de lire à l'intérieur des choses de Dieu. Et en lisant à l'intérieur des choses de Dieu, elle s'élève. Amen.